Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour. Je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à Marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Mes deux invités cette semaine ont tous les deux 22 ans. Océane Trudeau et David Gauthier sont aussi des amis de longue date. Ensemble, ils ont complété le mythique GR20, le sentier de randonnée qui traverse la Corse du nord au sud à travers les montagnes. Le GR20 est annoncé comme étant l'un des sentiers les plus durs d'Europe, mais aussi un des plus beaux. Après un début rocambolesque, cette grande aventure est vite devenue une marche initiatique. Elle leur a permis de se reconnecter avec une nature sauvage, de rencontrer des compagnons de route tout à fait adorables et de contempler des paysages parmi les plus grandioses d'Europe. En deux mots, un merveilleux retour aux sources. Au cours de notre entretien, Océane et David partagent avec candeur les sentiments qui les ont animés tout au long de leur périple, les petites victoires au quotidien, celles d'avoir surmonté un défi après l'autre, et leur vision d'un monde en pleine rupture à presque tous les niveaux. En deuxième partie d'épisode, Michel Cousinat-Baudet explore dans sa chronique « Le corps en marche » les bienfaits parfois insoupçonnés de la marche en solitaire, loin des distractions intérieures et extérieures d'une vie qui nous laisse que peu d'occasions de se retrouver et de se recentrer. Je vous souhaite bonne écoute et bonne réflexion. Alors bonjour Océane et bonjour David, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Mais merci à vous Denis, on est trop content d'être là.
On est content, merci beaucoup.
Alors vous vous connaissez depuis longtemps?
Oui, ça fait depuis qu'on a 14 ans qu'on se connaît.
Depuis secondaire 3, on s'est rencontrés à l'école Père Marquette, puis depuis...
Ça l'a cliqué.
Exactement.
Alors vous avez une belle complicité là.
Ouais, David c'est comme un frère pour moi.
Alors Océane... Parlons de ce merveilleux projet, mais surtout de la genèse. Comment l'idée a commencé?
Bien, l'idée a commencé par mon beau-père, je dois admettre, que c'est lui qui m'a planté l'idée dans la tête il y a quand même longtemps de ça. Mon beau-père est allé en Corse, un voyage avec sa famille, il y a 20 ans de ça, et il m'a parlé de la beauté de la Corse, les belles montagnes en pleine Méditerranée. Il m'a vraiment, c'est ça, vendu sur l'idée d'y aller. J'ai pris une année sabbatique, il y a quelques ans de ça, entre mon cégep et mon université. Et c'est là qu'il m'a proposé l'idée de partir à l'aventure avec le temps que j'avais. J'aimais beaucoup la randonnée déjà. Mm-hmm. Et c'est ça, il m'a proposé l'idée d'aller en Corse parce qu'il est allé, il a trouvé ça magnifique. Ensuite, j'ai laissé cette idée se planter dans ma tête assez longtemps. Je suis allée déménager en Gaspésie pendant mon année sabbatique et là, j'ai découvert un terrain de jeu incroyable, vraiment des belles montagnes. Je faisais du ski tous les jours, de la randonnée vraiment souvent, de la course à pied. De là, j'ai eu la piqûre pour la randonnée et c'est seulement 2 ans après que l'idée de mon beau-père m'est revenue et que j'ai décidé d'entreprendre cette aventure. Initialement, j'allais y aller seule. Parce que la randonnée, c'est un sport que je pratique seule la majorité du temps. Mais après avoir fait quelques recherches, j'ai vu à quel point c'était costaud. On parle d'un trek multijour, 2 semaines minimum. Donc, j'ai pensé à inviter mon ami David avec moi.
Alors, vous avez demandé à David, est-ce que tu viendrais avec moi? Et la réponse a été presque instantanée.
Oui, exactement. C'était vraiment un projet que je voulais faire avec elle. Dans le fond, ça ne m'est jamais venu en tête parce que j'avais aucune expérience en trek, j'en avais jamais fait. Mais je suis quelqu'un qui aime la nature, puis quelqu'un d'assez sportif. Donc, immédiatement, ce défi-là, ça m'a parlé, puis je voulais l'entreprendre.
Mm-hmm. Alors, Océane, vous étiez bien préparée parce que vous aviez fait de la randonnée en Gaspésie, mais un peu partout au Québec. David, peut-être un peu moins.
Oui, mais vraiment, de toutes les personnes qu'elle aurait pu demander, je suis la dernière personne à qui elle aurait dû le faire parce que vraiment, j'ai aucune expérience en trek. Puis j'avais jamais, justement, la même année, la seule randonnée que j'avais fait, c'était le Mont-Saint-Hilaire. Donc, vraiment, niveau préparation, c'était absolument nul. Mm-hmm. J'avais rien fait pour me préparer, mais je comptais vraiment sur le fait que je suis quelqu'un d'assez sportif dans la vie. Je pratique le jiu-jitsu, puis je m'entraîne assez souvent. Donc, je comptais vraiment sur ça.
Alors, vous vous êtes bien préparé?
Oui, vraiment. J'ai fait de la randonnée le plus possible. On parle de 6 mois environ de préparation physique. De l'entraînement pour l'endurance, parce que c'est un des plus gros défis de la course. Certainement, c'est physique, mais aussi le côté mental. C'est ce qu'on m'avait dit. J'avais parlé à des gens qui l'avaient déjà fait et ils m'ont dit, Océane, prépare-toi. Oui, physiquement, c'est un défi, mais mentalement, c'est un plus gros défi parce que tu te vois faire la même chose pour une longue période de temps. Donc, je me donnais le défi au Québec de me faire des longues randonnées avec plus de poids dans mon sac qu'habituel. Tout ça pendant 6 mois avant de partir.
Et vous, David, vous étiez prêt mentalement, sinon physiquement?
Ben, pas physiquement, ça, c'est sûr, mais j'ai quand même fait mes recherches. Je m'embarquais dans quel projet. Puis j'avais compris que c'était justement une des randonnées les plus difficiles de l'Europe. Donc, je savais que ça allait pas être facile, certainement. Mmh, mmh. Donc, mentalement, j'étais plus préparé. Physiquement, ça, c'est une autre chose.
Alors, comment on se sent le premier jour à l'aéroport avant de partir?
Ouh, on était fébrile.
Excité.
On était tellement excité, ouais. Nerveux, unstoppable, mmh. Vraiment.
Tellement excité qu'on a perdu notre
tente.
Ah tiens, ça c'est peut-être la première anecdote. Les premiers jours ont été un peu rocambolesques. Hein? Et parlez-nous de justement cette histoire de tente.
Ben c'est ça. Pour aller en Corse, il n'y a pas de vol direct Montréal-Corse. Donc, tu dois nécessairement faire un layover dans une ville en France. Nous, on a fait un layover à Paris, un layover de 8 heures à Orly. Orly, aéroport de 4 terminales. Avec 8 heures, on s'est promené, évidemment. On a fait toutes les terminales, on a marché, on a visité l'aéroport. Et une heure avant notre vol, j'ai écrit à David et je lui ai dit, David, juste pour m'assurer que...
Un texto, c'est ça.
Exact.
J'étais aux toilettes.
Oui, David et moi étions aux toilettes. Et je lui ai envoyé un texte lui disant, David, moi, j'ai pas la tente. Je veux juste m'assurer que toi, tu l'as. Et là, on parle d'une tente MSR, la Oba Oba, une des meilleures sur le marché, à 750 $. Je voulais vraiment pas la perdre. Et là, David me répond pas.
Ben en fait, c'est que moi, je reçois ce texto, puis moi, j'ai pas l'attente. Puis si elle m'écrit ça, c'est qu'elle non plus, elle a pas l'attente. Donc, immédiatement, je suis parti en sprint, à la place de lui répondre, en sprint au McDonald's, où ce qu'on était juste avant. Puis je demande à la caissière, est-ce que vous avez vu une tente? Puis je vais revoir où ce qu'on était. La tente était pas là. Donc là, finalement, je contacte Océane, je la rappelle, pour lui dire que non, j'ai pas la tente. Puis là, j'ai couru jusqu'au McDo pour aller voir, puis elle est pas là non plus. Mais finalement, justement, il y a des guides dans l'aéroport. On est allé en voir un, puis immédiatement, il nous a vraiment réconfortés, puis il aurait pu vraiment faire le contraire. Puis si vraiment, il aurait vu la situation d'un angle juste neutre, il aurait fait « Vous n'allez jamais trouver votre
ouais, c'est ça,
vous êtes
foutus,
le GR, c'est fini, même avant de commencer. » Mais finalement, il nous a amené vers une madame qu'elle a toute la liste des objets perdus. Puis enfin, elle a pu le trouver. C'était vraiment un miracle.
Un miracle, ouais.
Puis ça vient commencer toute cette aventure.
Ouais.
Alors, vous l'avez trouvé à la dernière minute.
À la dernière minute, oui, certainement.
Il restait genre 45 minutes avant notre vol, on avait enfin
avant le départ, ouais, l'embarquement avait commencé et on était en train de courir vers notre porte.
Ça commence bien le voyage.
Exactement.
Alors, vous arrivez en Corse et là encore, il y a un moment assez rocambolesque, si on peut dire. Vous arrivez un 15 août.
Oui, 15 août, journée très importante pour la Corse. notamment à Ajaccio, qui est la capitale où est-ce que nous avons atterri. Le 15 août, c'est une grande journée festive où est-ce qu'ils célèbrent l'anniversaire de Napoléon Bonaparte,
voilà.
Qui, lui, est né à Ajaccio le 15 août. Donc, on peut s'imaginer que les rues étaient pleines, les hôtels étaient toutes réservées, il y avait absolument rien à faire. On s'est allongé à la marina, un coin un peu plus tranquille, moins festif. Et là, on a trouvé notre cher ange gardien,
ouais.
Philippe.
Ouais, non, c'est ça. Ben, c'était Vincent.
En fait. Vincent.
Ben, Vincent, ouais, il nous a vraiment aidés. Dans le fond, on a commencé à discuter avec lui, puis il a pris connaissance de notre situation. Puis immédiatement, il a voulu aider. Il nous a offert un lit dans son auto, parce que lui, il faisait le shift. C'était pas le plus confortable, mais ça faisait. C'était meilleur qu'un king.
Ouais.
Puis il nous a même offert du café à minuit. On l'a pas pris, ça, mais il était très généreux. Puis le lendemain matin, après. On est allé à sa maison en campagne. Puis justement, c'était une première initiation à la nature en Corse, aux montagnes. Puis c'était super beau, vraiment. Il y avait une rivière qui longeait sa maison. On est allé voir ça. Il nous a nourris. On a pu prendre notre douche. C'était vraiment une belle façon de s'établir et de se préparer pour justement la première journée du jeu.
Super gentil. Et cette première journée, elle a été aussi pas mal spéciale.
Vraiment. C'est ça, la Corse, située où est-ce qu'elle est, juste au nord de la Sardaigne, au sud, genre sur la côte ouest de l'Italie, c'est un emplacement qui est chaud. Méditerranéen, le soleil tapant. Nous, on s'est retrouvés en pleine canicule à 14 heures en train de commencer la première étape du GR20. On regarde à une première journée de 1450 mètres de dénivelé positif, 11 km de marche et 300 mètres de dénivelé négatif. Habituellement, une étape comme celle-ci, on la commencerait à 5 heures du matin pour éviter la chaleur tapant de l'après-midi.
Mm-hmm, oui.
Mais parce qu'on s'était clairement mal organisé, on a commencé à 14 heures.
En fait, c'est qu'on avait pris des réservations en avance, puis nous, on croyait qu'il fallait suivre à la lettre ces réservations-là. Mais finalement, on a découvert que durant le GR, c'est très flexible. Puis justement, les gardes de refuge sont assez habitués avec des gens qui changent les dates.
Alors, vous aviez une petite zone tampon, là, mais quand même, on poursuit.
Oui, donc c'est ça, on soleil tapant. On se dit, si on part à 14 heures de l'après-midi, nous allons arriver à 22 heures. Ça fonctionne. mais évidemment, ce n'est pas arrivé. Moi, j'avais mon application qui me montrait une espèce de carte d'élévation, puis ça nous montrait où est-ce qu'on se situait au niveau d'élévation sur le trajet. Arrivé après la première grosse montée, on avait fait la majorité du dénivelé positif. Le soleil commence à se coucher, les nuages commencent à être un peu roses. Je regarde David et je dis, David, on a fait plus que le deux tiers. On est presque rendu. Lâche pas, David, on s'entend. Il avait juste fait le Mont-Saint-Hilaire, une petite montagne.
Moi, j'étais en train de souffrir, là, surtout que c'était une journée de canicule. Vraiment, on s'arrêtait à chaque 15 minutes. Chaque fois qu'on trouvait de l'ombre,
ouais.
On s'arrêtait. Puis aussi, c'est une des premières fois que je fais une randonnée avec du poids sur moi.
Ouais.
Donc, ça aussi, il fallait que je m'ajuste.
Ouais.
Donc là, je suis justement après le premier sommet, puis qu'on croyait qu'il était le seul sommet. Vraiment, j'étais en train de célébrer, j'étais super heureux, je croyais que c'était déjà la fin. Mais ce que je savais pas, c'est ce qui m'attendait, c'était le pire. Puis,
dans la noirceur.
Dans la noirceur, en plus. Ouais, ces célébrations-là, c'était pour rien, en fait. vraiment.
Donc, on continue notre marche vers le refuge qui s'appelle Ortu. On sort nos lampes frontales et là, on marche. Faut pas oublier, nos deux cellulaires sont morts, ils ont plus de batterie. Donc, voilà. Et on n'avait pas les cartes non plus. Donc, on n'avait aucune idée où est-ce qu'on était. Et on était absolument seuls sur le sentier. Bref, on marche. David, moi, j'étais remplie d'adrénaline. J'avais l'impression que je pouvais courir un marathon. Je me lance dans le sentier super vite. Je dis à David, moi, je vais aller trouver le refuge. Reste là, ou marche.
Elle a dit qu'elle a dit ça, elle a jamais dit ça, elle a juste dit, je m'en vais.
OK, bon.
Puis moi, je m'attendais, quand elle me dit ça, je m'attendais à ce qu'elle m'attende un peu, tu sais, c'est qu'elle elle a beaucoup plus d'expérience que moi. Donc, tu sais, je m'attendais à ce qu'elle ralentisse pour que je puisse la rattraper. Donc, après ma pause de 2 minutes, tu sais, elle était déjà partie, donc j'essaie de la rattraper. Puis je crie « Océane », elle me répond pas. « Océane », elle me répond pas encore. Donc là, après 20 minutes de marche, tu sais, je suis encore en train de crier « Océane ». Puis genre, je vais plus vite que l'habitude pour vraiment essayer de la rattraper. Puis même à ça, j'ai aucune réponse, puis je la vois nulle part, aucun signe de vie. Puis vu qu'il fait noir, complètement noir, puis elle me répond pas, je la trouve pas. Puis je suis dans un endroit où je connais pas, je sais pas où est-ce que je m'en vais. Je commençais à avoir des doutes, je commençais à me demander est-ce qu'elle est peut-être tombée à quelque part. Puis là, justement, c'est la dernière chance pour la sauver. Puis là, je l'ai laissée tout seule, j'ai laissé mon amie tout seule. Puis c'est à cause de moi qu'elle serait morte. Donc là, je commence à avoir ces idées dans la tête. Puis donc, immédiatement, je suis parti à courir. Je suis retourné à la dernière place où ce que je l'ai vu, au dernier endroit où ce que je l'ai vu, pour justement essayer de la retrouver. Puis je criais « Océane, Océane, Océane! » Je commençais à paniquer. Puis justement, j'étais vraiment proche d'appeler les secours parce que j'avais vraiment... J'étais convaincu que j'ai laissé mon ami seul, blessé.
Ouais. Oh non, c'était toute une expérience. Mais au final, on s'est retrouvés. Ça a été un des moments les plus marquants de ma vie, je crois. Oh, mon Dieu,
J'ai jamais été aussi heureux de l'entendre parce qu'elle est revenue, elle, pour essayer de me trouver aussi. Elle croyait la même chose. Elle croyait que moi, j'étais tombé. Donc là, quand on a enfin vu, justement, lampes frontales, puis qu'on a entendu nos voix, c'était un des plus beaux moments, justement. Il y avait beaucoup de vécu déjà dans ces dernières... Dans les dernières heures.
Et là, vous faites quoi?
Et là, on se donne un gros câlin, on pleure et on continue notre marche. On dit là, David, on s'arrête plus jusqu'à temps qu'on arrive au refuge, c'est fini. On se laisse plus jamais, chacun de notre côté. On reste ensemble. Donc, on continue notre marche. Finalement, on est dans le noir et on est dans les grosses montagnes. On voit des lumières au loin, mais la perception peut être difficile à comprendre dans le noir. Tout semble très loin ou très proche. C'est assez bizarre. Donc, moi, je dis à David, regarde là-bas, le refuge. On est si près. Et David me dit, non, non, non. Là, tu te mélanges, là. Il y a une grosse vallée et le refuge est très loin de l'autre côté. Bref. Donc, David, il me convainc qu'on s'installe dans le sentier, on pique notre tente. Et il suffit que 20 minutes après, il y a le garde du refuge qui arrive et qui nous dit « Hey, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas le droit de dormir dans le sentier, vous êtes à 10 minutes du refuge. »
Ouais, vraiment, ben, c'était 1 km.
Ah oui, c'était 10 minutes.
On était vraiment juste à côté, elle avait complètement raison. C'est drôle que la personne avec plus d'expérience avait raison.
C'est drôle comment ça arrive.
Alors, vous avez passé la première nuit au refuge.
Oui, exact. Donc, on s'est installé dans la tente et le garde du refuge nous a dit « Là, vous êtes arrivé tard, mais vous allez devoir vous lever très tôt demain. Vous devez vous lever à 4 heures, partir à 5 heures maximum, puisqu'annonce des orages à 14 heures et vous ne voulez pas être pris dans la montagne avec les orages. » Parce qu'on parle... C'est ça, le nord de la Corse. Nous, on a fait nord-sud, et le nord de la Corse est caractérisé par un environnement rocailleux. C'est juste la roche. Tu ne marches pas sur de l'herbe, sur de la terre, pendant 4 ou 5 jours. Donc, on ne voit pas de forêt, c'est vraiment juste la roche. Ceci étant dit que s'il pleut, tu marches sur des surfaces extrêmement glissantes. Tu dois éviter les orages à tout prix. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a dormi 4 heures, on s'est réveillé et on a entamé notre deuxième journée.
Oui, parce que justement, on s'est couché à minuit. Donc, ça ne donnait pas beaucoup de marge pour dormir.
Et pour David, la deuxième journée, ça a été un peu difficile au point où on se dit « Mais qu'est-ce que je fais ici? »
Oui, je commençais à avoir des doutes parce que justement, j'étais aucunement préparé, donc ça n'a pas aidé. Mais non seulement ça, mais on ne s'est pas donné les meilleures conditions pour s'attaquer au GR parce que justement, là, on n'avait pas beaucoup de sommeil. On avait manqué le déjeuner du matin parce que c'est à vers 6h30, 7h. Puis nous, on partait à 4h30, puis l'épicerie était fermée. Donc, vraiment, à chaque refuge, il y a une épicerie, en passant. vraiment, on n'avait pas mangé, mal dormi, puis j'étais même un peu malade. Puis en plus de ça, je m'attaquais à une des randonnées les plus difficiles que j'ai fait de ma vie. Donc vraiment, les conditions étaient vraiment pas bonnes. Puis justement, j'essayais d'aller au même rythme que Océane, mais justement, je la retenais, c'était clair. Donc à un moment donné, j'ai juste dit à Océane, c'est bon, laisse-moi, je vais aller à mon rythme, je ne vais pas ruiner ton expérience. Puis justement, pendant ce moment-là, je commençais vraiment à douter, à me re-questionner sur pourquoi est-ce que je suis ici. En plus, c'est des vacances. Là, en train de... donc, ouais, c'était vraiment un moment pour vraiment me re-questionner. Mais j'ai réussi cette étape après plusieurs pauses, plusieurs...
Ouais, moi, je suis arrivée au refuge 2 heures ouais, avant David. Ouais, ouais, et à chaque personne que je voyais qui arrivait... Est-ce que vous avez vu David? Il est grand. Il a peut-être l'air fatigué.
Ouais, justement, les gens qu'on a rencontrés par la suite, ils me disaient que quand ils m'ont vu à la deuxième étape, ils croyaient vraiment pas que j'allais me rendre. J'avais l'air mort, j'étais tout blanc selon eux. Donc ouais, vraiment, ça a été difficile. Mais justement, ouais. La troisième journée, c'était le contraire. Là. C'était vraiment la journée de renaissance parce que j'ai enfin eu du repos, j'ai enfin pu manger. Puis en plus, j'étais plus tant malade. Donc vraiment, ça fait du bien. Puis en plus de ça, c'est que oui, je m'étais pas préparé, mais techniquement, chaque jour, c'était de la préparation pour la prochaine. Puis là, j'avais déjà 2 jours de grosses randonnées, des 2 grosses étapes dans la poche. Puis là, on s'attaquait à une étape plus facile. Donc vraiment, ça, ouais. C'est...
Puis le fait d'avoir vécu de la difficulté dans le début, ça nous a rendu incroyable. Il n'y avait plus rien qui pouvait nous arrêter pour le reste. On était tellement heureux d'être là, optimistes par la suite. On se racontait les histoires des 2 premiers jours au fil du trajet et on trouvait ça tellement drôle. On était comme, ah, une chance qu'on a vécu ça. Vraiment, parce que ça nous a préparé pour le pire. Vraiment, ben il n'y avait pas pire. Oui, exact. Il n'y avait pas pire que les 2 premiers jours.
Donc, c'était votre entraînement, dans le fond.
C'est ça, c'est exactement ça.
Surtout pour David.
Ah, c'est 100%, surtout pour moi. Ouais, exactement.
Donc, à partir du 3e jour, ça a été une belle aventure. C'est ça?
La okay, oui. Plus belle oui. De ma vie. Mm-hmm. Ouais.
À ce point-là. Oui.
Ouais. Pour multiples raisons, là, dont une, c'est vraiment la nature brute.
Sauvage,
vraiment, oui. Que tu te retrouves oui. Dedans. Pas touchée du tout. Imposante aussi. On parle des gros sommets pointus là, de la roche. Mm-hmm. C'était fantastique. On a aussi été gâtés avec du beau temps tous les jours.
Ah
du
oui.
Soleil. Ah, ah oui. Ouais, s'il pleuvait, c'était en après-midi ou en soirée, mais ça ne nous faisait rien parce qu'on était dans nos tentes en train de se reposer, lire un livre.
Donc, encore un signe qu'on était mal organisé, c'était la saison des orages, mais justement, on a été vraiment chanceux parce que ouais. C'était justement durant la nuit, mais ouais, en jour, c'était magnifique.
Ouais.
Puis vraiment, c'est du terrain qu'on n'a jamais vu au Québec. Exact. On n'a pas ça, c'est des montagnes. C'est exceptionnel, vraiment, c'était à couper le souffle. C'était vraiment fascinant.
Décrivez-le pour nous, parce que nous, on le connaît moins, évidemment. Mm. Parlez-nous de ces paysages magnifiques qu'on dit parmi les plus beaux en Europe.
Ben, OK. Une bonne manière que je peux essayer d'expliquer ça, c'est tu montes une grosse montée, un gros sommet, une grosse crête, et la crête, elle est si à pic que tu vois pas de l'autre côté. Et là, quand tu arrives en haut de la crête, tu vois l'horizon et c'est juste des montagnes. Mmh. Tu vois ton trajet qui t'attend. Tu vois, dans le début de la randonnée, tu vois la mer et tu vois que c'est ça, t'es entouré de nature si grande là, et tu te sens tout petit, de la roche partout. Vraiment, à un point, on était sur une crête avec des pierres rouges. On se croyait sur Mars. C'était magnifique. C'était une crête après l'autre, des vues sans cesse, 360. Prendre le temps de se retourner quand on avance, c'est important aussi.
Regarder, de goûter, là, vraiment. Oui.
Et ouais. David et moi, on y a goûté. On a vécu chaque moment comme il se devait avec nos amis qu'on a rencontrés sur le chemin. C'était fantastique.
Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, je le comparais même à Seigneur des Anneaux, Mordor. T'es vraiment au milieu de nulle part. C'est quelque chose que tu vis pas souvent, d'être aussi déconnecté, puis en pleine nature. Puis tu te sens tellement petit, c'est tellement gros, c'est tellement large. Puis le fait aussi qu'il y avait des animaux en liberté, ça rajoutait un élément de comme... Vraiment, c'est quelque chose qu'on a vécu qui est pas habituel.
Ouais.
Nous allons prendre une courte pause musicale et revenir avec certains autres beaux moments du voyage. Nous sommes en compagnie de Océane et de David. Nous parlons de cette fabuleuse randonnée sur le GR20. Parlez-nous maintenant d'autres moments forts, mais surtout les rencontres que vous avez faites là-bas.
Je pense que un des aspects du voyage qui nous a le plus marqué, c'était les rencontres. Une particularité d'un trek comme ça, divisé en étapes, qui une étape représente habituellement un jour, c'est que tu marches souvent avec les mêmes personnes. Donc, dans les premiers jours, tout le monde est assez divisé dans leur petit groupe. Mais après 3-4 jours, on recommence à reconnaître des visages familiers. Voilà. David et moi, on a eu la chance de rencontrer 3 autres duos avec qui on s'est rapprochés extrêmement. On va les nommer juste parce que il y avait Fayez, Ethan, Jade, Charlotte, Malo et Luna. Vraiment des amis incroyables avec qui on reste en contact encore aujourd'hui. Voilà.
Ouais, c'était. Ben, c'est que tu sais, tu vis les mêmes épreuves, tu vis. T'es exposé à la même beauté. Donc, c'était très bien de partager ces moments avec ces gens-là. Puis aussi, ça crée vraiment rapidement des liens forts. Parce que vous êtes tous dans le même bateau, vous êtes tous en train de passer à travers la même chose.
Le même défi, quoi.
Ouais, exactement. Ça, oui. Puis, on le sait, l'isolation amène la cohésion. Là, vraiment, quand tu te ramasses dans un environnement tellement isolé, tellement, sauvage, comme on dit, là, avec pas grand-chose alentour, ça tisse des liens très, très, très serrés. C'était le fun parce que c'est comme un retour à l'enfance. Genre, quand tu te ramasses sur des sentiers comme ça, tu parles avec ces gens-là de tout, de rien. On joue à des jeux, on déconne ensemble.
On se laisse aller.
On se laisse aller complètement.
Il y a une semaine.
Oui, puis c'est rendu tes meilleurs amis.
Ça crée des très beaux liens. Très beaux liens.
C'était génial.
Puis justement, le GR20 est séparé en 16 étapes. Puis ce que j'ai aimé avec notre voyage, comment on l'avait planifié, c'est qu'on était vraiment flexible. On s'est dit, au pire des cas, on va le faire en 16 étapes, en 16 jours, une étape par jour. Mais là, justement, à cause qu'on les a rencontrés, on a juste décidé de les suivre parce que des fois, ils doublaient. Puis justement, on a décidé de faire ça avec eux de temps en temps pour justement, vers la fin, qu'on soit toutes, qu'on termine toutes au même moment. Puis justement, pendant chaque étape, on parlait justement de ce qu'on allait faire après. On allait se prendre une bière tout ensemble, qu'on allait célébrer ensemble d'avoir surmonté cette épreuve. Puis justement, d'aller à la plage ensemble.
Vraiment de bons amis. Et vous chantiez aussi.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est un bon point. On s'appelle, notre groupe sur lequel on se garde encore contact s'appelle les chanteurs du GR20. On passait des heures à chanter des classiques, puis là c'était drôle parce que c'était des musiques que tout le monde connaît, souvent des chansons américaines là.
Telles que
California Dreaming, surtout. Il y avait
Bohemian Rhapsody,
beaucoup de Queen.
Je sais pas, du Bruno Mars. Des chansons assez connues, justement, parce que eux, c'est des Français, nous, on est des Québécois, donc j'imagine que c'était ça notre lien des chansons.
On passait des heures là, sur le sentier, vraiment. Puis les gens, ensuite, au refuge, ils nous reconnaissaient, ils disaient « Ah, vous êtes les chanteurs, hein? C'est vous qui chantiez! » On était comme « Oui, c'est nous! » C'était génial, Une autre rencontre fabuleuse qu'on a faite, que moi, qui me tient beaucoup à cœur là, à ce jour, c'est Philippe. Garde du refuge d'Imori sur l'étape 7-8. Un homme grand, au cœur grand aussi. Un homme qui vient de la Corse, qui a grandi dans ces montagnes-là et qui est extrêmement proche avec son environnement, la nature, ce qui fait qu'il est spirituel à un certain point. Puis on a parlé de sa spiritualité puis de sa connexion avec son environnement. Et puis, je me suis sentie privilégiée là, de pouvoir partager ses mots avec lui, puis ses pensées avec lui. Évidemment, je pense que je l'ai charmé un peu. Là. Je suis arrivée au refuge, il m'a vu, il m'a dit « Ah, mais que vous êtes jolie, mademoiselle, est-ce que je peux vous offrir du vin? Et là, j'ai dit, mais bien sûr. Alors, 2-3 verres de vin plus tard, on parle, on discute. Et voilà, ça, on a créé un lien automatiquement. Là, un homme de 55 ans, juste simplement incroyable. Philippe avait une manière de décrire sa connexion avec la nature comme étant quelque chose de inné et de quelque chose que beaucoup de gens aujourd'hui oublient.
Mm-hmm.
Puis il m'a fait réaliser, c'est ça, il a remarqué que moi et David, on prenait le temps de regarder nos environs, qu'on prenait le temps de marcher et de regarder derrière nous, pas juste en avant. Faut le croire, mais sur le GR20, il y avait beaucoup de personnes qui voyaient le périple comme étant une compétition contre la montre, contre eux-mêmes, contre les autres randonneurs.
Mais c'est la performance.
Oui, c'est la performance. Ouais. Ouais. Puis je comprends cet aspect-là. Je comprends que tu peux avoir des buts à atteindre, niveau physique, tu veux te surpasser. Je comprends totalement. Mais après ça, c'est le faire ressentir aux autres. Je trouve que c'est ça. Il faut comprendre que tout le monde est là pour ses propres raisons. Et après, on peut revenir ensemble comme humains et pas comme... c'est ça, comme compétiteur.
C'est pas un classement, c'est pas comment je suis arrivé avant toi. C'est...
Exact.
Puis vraiment, les gens qui le voyaient comme « Ah, je vais le faire le plus rapidement possible », justement, Philippe l'a mentionné, c'est qu'ils prennent pas le temps de vraiment apprécier ce qu'il y a autour d'eux. Puis c'est rendu là, ça sert même pas à quelque chose que tu sois encore en train de faire le GR20. Tu pourrais faire la même distance.
Sur un tapis roulant, genre.
Exactement, c'est ça. Donc, rendu là, c'est pas ça le but du GR20, c'est vraiment de profiter de où ce que t'es, profiter de... C'est pas un endroit qui est facilement accessible pour tout le monde. Au Québec, on n'a pas ça, donc c'est vraiment prendre le temps d'être reconnaissant ce qu'il y a devant toi.
Ouais, non, c'était une magnifique rencontre qui me fait encore... qui me fait réaliser à quel point c'est important de prendre le temps et d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Là. Ouais.
Mm-hmm. Vous parliez de la nature sauvage. Ben, en fait, c'est presque une connexion ou une reconnexion avec la nature.
Absolument. On veut souvent dire déconnecter pour se reconnecter. C'est un peu ça. C'est fou parce que tu sors d'un environnement... Moi, David et moi habitons à Montréal. Et tu sors d'un environnement où est-ce que t'as tout pour aller quelque part où est-ce que t'as absolument rien. Même du papier de toilette, des fois, il y en a pas. Puis tu te retrouves dans des situations où est-ce que t'as si peu, où est-ce que ta vie, tu la traînes dans ton sac et tu réalises à quel point t'es encore plus rempli. Tu sais, des fois, ça te ramène... ça te fait vraiment revisiter ta pension, ta manière, pardon, de voir la vie, puis de voir tout l'aspect matériel des choses. Vraiment, tu te retrouves en nature avec si peu, mais avec tellement beaucoup dans le cœur et dans l'âme.
Oui, mais il y a quelque chose avec la nature, tu sais. Quand je suis en nature, j'ai l'impression que je peux jamais m'ennuyer. Puis c'est peut-être une certaine façon que, tu sais, les plantes, c'est du vivant. Puis oui, ils sont pas capables de verbalement communiquer avec toi, mais j'ai l'impression peut-être qu'il y a de quoi, d'une manière ou d'une autre, où ce qu'ils communiquent avec moi, ou ce qu'ils me font sentir quelque chose, que justement, ça, je pourrais jamais m'ennuyer en nature. Ils me donnent quelque chose, ça me donne quelque chose en nature. Puis vraiment, ouais, il y avait toute une connexion. Ça devient assez profond même. Puis tu réalises, ça te fait vraiment réfléchir sur comment tu te sens au jour le jour. Ça m'a donné une nouvelle perspective sur la manière dont je ressens ma vie. Dans le fond, quand je vis avec de l'anxiété, c'est souvent pour des affaires tellement peu pertinentes. Puis ça fait aucun sens que je m'accroche à autant de petites choses quand vraiment, dans le fond, la vie, c'est tellement plus que ça. Puis quand t'es en train de marcher en nature pendant 14 jours, puis ton seul stress, c'est juste de te rendre au point B, ça te fait vraiment re-questionner sur, sur c'est quoi le but de notre vie, c'est quoi... Je devrais vraiment vivre la vie d'une autre manière.
Ouais, puis vraiment... Avec les médias sociaux, genre, on est constamment, c'est ça, on absorbe de l'information puis du divertissement, voilà, constamment. Ben voilà, ça faisait du bien d'être diverti par peu, pour une fois. Puis pas constamment.
Et quelque chose de naturel.
Et quelque chose de naturel, oui. Ouais, exact. Ouais. Non, c'était génial.
Oui. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose au Québec? Océane, vous avez parcouru beaucoup les montagnes du Québec.
Oui, beaucoup, beaucoup. Surtout, c'est ça, en Gaspésie, sur la côte nord, ainsi que dans les cantons, dans les Laurentides. Oui, mais il y a la chance au Québec de faire des longues randonnées de plusieurs jours. Mais. C'est ça. Le niveau de difficulté qu'on a fait en Corse est vraiment pas similaire à ce que tu vois au Québec. Je pense que j'ai fait une section de la Appalachian Trail à Matane, qui est considérée comme étant une des plus difficiles, là. Puis ça l'équivalait à notre journée la plus facile en Corse, vraiment. Là. Puis
je pense à ce point-là, oui.
Ah oui, oui. Mm-hmm. Puis je pense qu'être dans des montagnes et dans un environnement tellement difficile comme ça, non, ça, je pense pas que ça pourrait... être similaire ici. Là.
Difficile et magnifique en même temps.
Oui, 100%.
Les paysages
c'est
sont...
C'est ça la récompense, en fait.
Ouais.
C'est que c'est... Oui, exact. C'est quand tu as des doutes, ben après, quand tu es rendu au sommet puis tu vois tout ce qu'il y a autour de toi, c'est là où tu es comme... Ben, mm-hmm. Maintenant, c'est, mm-hmm. si j'ai bien choisi de faire mes vacances
en souffrant
ça vaut la peine. Ça vaut la peine à 100%. Parce ouais. que c'est un sentiment que tu aimerais partager avec les autres. Puis j'étais tellement oui. content mm-hmm. de pouvoir mm-hmm. le partager avec Océane, d'avoir quelqu'un avec qui je pouvais m'exprimer puis lui dire comment je me sentais. Puis, mais il y a un sentiment... Je voulais vraiment pouvoir le partager avec ma mère, mettons, qui n'était pas là. Ou, puis, tu sais, je peux lui montrer des photos, mais ce n'est pas la même chose.
Ce n'est pas la même chose.
Je voulais vraiment pouvoir... je voulais qu'il y ait le même sentiment que moi. Mm-hmm. Mais ouais. malheureusement... mais au moins, il y avait ça.
C'est intéressant ce que vous dites, David, parce que Océane, vous parliez de la solitude, votre amour.
Mm-hmm.
Vous nous parliez de la solitude, votre amour de la solitude, et là, vous parlez de partage.
Oui, c'est vrai.
C'est intéressant.
C'est vrai, oui. J'ai découvert, je pense que la randonnée en Corse m'a vraiment changée. Je suis définitivement plus la même personne après ce voyage. J'ai vécu des choses qui m'ont changée. Ma perspective sur la vie a changé complètement. Et. J'ai recommencé à faire de la randonnée avec des gens. J'ai retrouvé cet amour, ouais, mm-hmm. à partager le plaisir.
Mm-hmm.
Ça rend ça encore plus beau quand l'émotion est partagée et vécue à travers des amis ou un partenaire ou de la famille.
Il y a une solidarité là qui s'installe.
Absolument, ouais. Ouais.
Au cours de la pré-entrevue, vous me parliez de la fierté que vous aviez à tous les jours. Hey, on a réussi.
Ouais.
Hein? Ben oui, c'est ça a augmenté ma confiance. Parce que vraiment, c'est quelque chose que au début, je croyais pas pouvoir faire. Puis après, je l'ai réussi. Donc, c'est très, très valorisant de pouvoir dire que j'ai réussi le GR20. Puis en plus de ça, que je l'ai fait... je l'ai fait... en l'appréciant, puis en profitant, puis en admirant ce qu'il y avait autour de moi.
Est-ce qu'on ressent une certaine humilité devant le trajet parcouru, la beauté de la nature sauvage? Comment on se sent?
Ouais, alors c'est sûr que le sentiment que ça t'apporte, justement, comme je disais, c'est grand, les montagnes. C'est puissant, surtout quand il y avait des orages.
Ah,
ça,
ouais.
C'était vraiment... Tu vois à quel point, dans la nature, c'est pas une blague. Dans les montagnes, c'est fort. C'est bruyant. Puis t'as l'impression... J'ai jamais entendu des orages aussi intenses. Tu te sens petit. Tu te sens très petit face à la nature. Puis je pense que c'est ça qui est important. Puis justement, si tous les dirigeants de ce monde pouvaient avoir cette expérience-là, ben je pense que le monde serait meilleur parce qu'ils réaliseraient que le monde ne tourne pas autour d'eux. C'est eux, ils font partie d'un tout.
Mm-hmm.
Exactement. C'est pas eux le tout.
Non, sentiment d'être tellement petite, je l'ai ressenti tellement fort. Puis je pense que de là vient mon amour pour le plein air puis pour la randonnée. Ça me fait du bien. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui vit beaucoup d'émotions, surtout par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Je le vis beaucoup intérieurement. Puis d'aller en forêt ou aller en nature ou de se donner un défi comme ça, ça c'est ce sentiment de se sentir toute petite puis de lâcher prise.
Mm-hmm.
C'est ça, de se rappeler que je fais partie d'un tout aussi et qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus grandes que moi, ça me rassure, puis ça me donne de l'espoir, voir de la nature comme ça, voir un territoire comme ça, ça te donne, quand tu l'apprécies, ça te donne envie d'en prendre soin. Moi, je trouve qu'en nature, je suis optimiste par rapport à notre futur. C'était génial. Ça fait du bien.
Alors, nous prenons une autre courte pause et nous parlons ensuite justement de votre perception de la vie face à ce monde en plein bouleversement, justement. Nous sommes de retour avec Océane et David. Parlons maintenant de la dimension spirituelle. C'est vivre le moment présent dans ces randonnées, non?
Absolument. C'est juste ça qu'il y a à faire, en fait. Être loin de chez nous, être loin de ce qui nous entoure, ça nous force à vivre le moment présent, un pied devant l'autre, on avance.
Parce qu'il y a aussi, légère, il n'y a pas beaucoup de villages entre. Donc, tu n'es pas tant exposé à la civilisation. Puis, je me souviens que juste après qu'on a fini, on est rentré dans un centre d'achat. Puis, je me sentais vraiment comme un homme des cavernes. Parce que c'était. Il y avait tellement d'options. Il y avait tellement de. J'avais accès à tout. Je pouvais. Tu sais, puis il y a plein de télé partout, plein de technologies. Puis, tu sais, dans les refuges, c'était pas du tout ça. C'était vraiment. Tout le monde se battait pour une prise, là.
Oui.
Vraiment, il y avait le peu. Il y avait tout ce que tu avais besoin dans l'épicerie, mais il n'y avait pas beaucoup d'options non plus. Donc, c'est sûr que d'être déconnecté de la civilisation, ça permet vraiment de ça aide l'esprit. Ça fait du bien à l'esprit.
Mais ça l'a fait ressurgir, en fait. J'ai l'impression que. C'est ça, avec la vie du quotidien, les stress du quotidien, le plus authentique de nous est peut-être un peu refoulé en dessous de ces stress-là, mais de se ramasser, c'est ça, avec pratiquement rien, ça le fait remonter ton authenticité, ta vraie personne, qui tu es, ton petit enfant en toi qui aime jouer avec des bâtons de bois et des roches, ça le fait vraiment ressortir, là. Donc, ouais, c'est
génial. Vous ressentiez les émotions de façon très authentique.
Oui, vraiment, tous. Moi, j'ai eu des... Autant dire que le GR20, c'était la plus belle chose qui m'est arrivée. Mais je vais pas vous mentir, il y a eu des moments difficiles.
Lesquels, par exemple?
Moi, je me suis blessée vers la fin. Les deux derniers jours, j'avais étiré un muscle dans mon mollet. Ça me faisait chaque pas, je ressentais une douleur 6 sur 10. Et c'était extrêmement douloureux. Et c'était vraiment un défi pour moi de continuer, de ne pas arrêter. Et dans ces moments-là, j'étais vraiment reconnaissante d'être avec David, parce que David m'a soutenue à travers cette épreuve. Donc oui, des fois, il y a des moments où est-ce que... C'est ça, tu vis pleinement, tu ris à plein cœur, à gros sourire. Mais des fois, il y a des moments difficiles aussi... Puis c'est important d'en parler, des moments où est-ce que... C'est ça, David, les deux premières journées, il s'est douté de lui-même. C'est pas facile d'avoir le doute quand t'as investi du temps, de l'argent dans une aventure comme ça. Être blessé, ça te met face à des circonstances auxquelles tu t'attends pas nécessairement. Moi, je m'attendais pas à me blesser, mais voilà. Moi, il y a des moments un peu plus difficiles, tu vois, où est-ce que, un soir où est-ce que tu vas moins bien dormir, mais tu dois quand même entamer 12 km de marche et avec 2000 mètres de dénivelé négatif. Genre, c'est... Donc, ouais. Mais à travers tous les moments, tu les vis et t'es forcé à les vivre parce que t'es face à Dame Nature qui te regarde et c'est ça. Puis il n'y a pas de jugement de personne alentour de toi. T'es seul, donc t'as l'espace et le temps de vivre tes émotions comme ils se doivent. C'était une belle opportunité, une belle chance qu'on avait de vivre ça.
Ouais, ben les deux, on s'est vus à notre pire. Puis je pense que le plus difficile du GR, c'était vraiment mentalement de se réveiller tôt le matin. Puis tu sais que t'as plusieurs heures de marche encore à faire. mais justement, c'est là où c'est que ta personne se développe, que t'apprends vraiment plus à te connaître toi-même.
Oui.
Ouais,
vraiment, mais on a appris à se connaître nous-mêmes.
Ouais, ben,
tellement,
ça. Ouais. Puis, ben, juste notre relation aussi, c'est tellement plus fortifié parce que tu peux pas faire ça avec n'importe qui.
Non.
Vraiment pas dormir dans la même tente et tout le temps ensemble. Mais Océane, j'avais vraiment pas de doute que ça allait être une belle expérience, puis qu'on allait bien.
Ouais, vraiment, bien... David et moi, on a ri pendant 14 jours. On a juste ri tout le temps. Ouais.
Est-ce que votre perception de la vie a changé?
Oui, définitivement.
Ouais, ben ma perception de la vie, ben dans le sens que moi, qu'est-ce que ça m'a apporté, c'est que j'ai vu que la vie peut être très difficile, mais justement, ça m'a fait réaliser à quel point la persévérance est importante.
Moi, ça m'a... OK, deux points que je veux amener. Je suis une femme qui a entrepris ce projet. Le plein air, la grande randonnée comme ça, c'est majoritairement des hommes qu'on retrouve sur les sentiers. Mm-hmm, et oui. Si on voit des femmes, c'est des femmes qui sont accompagnées de leurs copains, qui... Évidemment, je crois que dans la plupart des cas, c'est leur copain qui était comme « Allez, on y va, on fait ça. » Mais là, j'étais... c'est ça venait entièrement de moi. Et j'étais tellement fière. Définitivement, cette randonnée m'a montré que j'avais cette force intérieure que je savais pas que j'avais. La force à surmonter chaque jour une étape, chaque jour un défi, autant physique que mental. Ça allait changer ma vie à cause que j'ai découvert cette force et cette indépendance. Ça m'a rendu fière de qui j'étais, fière d'accomplir un projet comme ça de longue envergure. C'était vraiment génial. Donc, oui, puis définitivement, comme David dit, ça m'a fait reculer et ça m'a fait voir la vie. C'est ça d'un autre angle, en fait. C'est ça. Quand je vis des moments difficiles dans la vraie vie, là, on dirait que je ferme mes yeux, puis je repense à la Corse, et je repense au GR et au trajet, puis j'arrive à me rappeler comment je me sentais sur les sentiers, puis ça, c'est comme un happy place. Ça me fait du bien, c'est un endroit que je prends pour m'évader des fois. Là, donc,
là ouais. vous puisez une force là-dedans, une inspiration là-dedans.
Définitivement, ouais. Et j'espère inspirer d'autres personnes à aller vivre quelque chose comme ça.
C'est un beau témoignage. Écoutez, nous vivons dans un monde de grands bouleversements, évidemment. Les guerres, l'environnement, l'économie, l'intelligence artificielle. Comment vous voyez le monde aujourd'hui? Peut-être avant et après votre randonnée en Corse, mais globalement, comment vous voyez le monde aujourd'hui à 22 ans?
Oui, ben, je pense que j'avais toujours une idée du monde dans lequel on vit un peu négative. Puis je pense que ça n'a pas changé après le GR. Peut-être mon optimisme par rapport à l'être humain, justement à cause des belles rencontres qu'on a eues, c'est des gens que j'ai pas l'impression que... Tu sais, à première vue, j'aurais pu les juger, j'aurais pu être comme « Ah, c'est peut-être pas des gens que je m'entendrais bien avec », mais vraiment, le fait qu'on a tous été exposés à la même chose, j'ai réalisé que chaque humain, vraiment, il y a de l'espoir dans chaque humain. Chaque humain est bon. Faut juste le chercher. Donc, ça m'a donné espoir dans ce sens, mais je veux dire, je pense que je réfléchis toujours un peu négativement à le futur puis où est-ce qu'on s'en va, parce que justement, les dirigeants du monde sont comme vraiment déconnectés puis pas assez connectés à la nature.
Ouais. Moi, depuis un petit bout, je pense, dans mon adolescence, j'étais une personne très pessimiste par rapport au monde. Je voulais démolir, recommencer. J'étais fâchée, vraiment. Aujourd'hui, je me retrouve à être un peu plus équilibrée et optimiste. Je suis optimiste par rapport à ce qui s'en vient devant nous. Oui, je comprends qu'on vit dans un monde où est-ce que tout semble immense, où est-ce que personne semble avoir une bonne solution, personne ne peut s'entendre sur quelle est cette solution, où est-ce qu'on s'en veut, où on décide de mettre nos valeurs aussi. La technologie arrive à un pas tellement rapide. Même moi, j'arrive plus à suivre le fil, là. J'arrive même pas à manœuvrer mon ordinateur efficacement. Je dois demander de l'aide à mon copain pour m'aider. Là. Vraiment, je suis... Mais je suis optimiste par rapport à notre génération. Comme David dit, moi, vraiment, les humains, autant qu'on soit différents les uns des autres, on a un tronc commun. On appartient tous à un tout. Puis quand on... Il suffit de le chercher des fois, puis d'aller voir les gens. Hein. Je pense que une solution pour ça, là, ça serait de parler au monde. Je pense que de plus en plus, c'est facile de juste se regarder et de continuer sur le chemin, mais des fois, s'arrêter, hein, comme sur le GR, là, s'arrêter, regarder en arrière, ben, s'arrêter et prendre le temps de regarder les gens et d'aller leur parler. T'sais, on faut pas avoir peur d'aller parler aux gens. Souvent, on trouve des belles rencontres, puis c'est ça, on a tous un point en commun, c'est qu'on appartient tous à un tout, et on veut tous la même chose. Au final, c'est de l'amour, puis de la reconnaissance. Puis je pense qu'on peut trouver ça dans chaque être humain sur notre passage. Donc, suffit qu'on se parle et qu'on passe un peu plus de temps en forêt. Je pense qu'on s'en va vers quelque chose de beau.
Quelle belle façon de terminer l'émission. Océane, David, merci beaucoup d'avoir
merci
été.
Merci à vous, Denis. Merci.
Et à la prochaine.
À la prochaine.
À la prochaine.
C'est de nouveau l'heure de la chronique « Le corps en marche » présentée par Michel Cousinat-Baudet, ostéopathe et entraîneur spécialisé en posture. Bonjour Michel.
Bonjour Denis.
Vous avez choisi cette semaine d'approfondir un sujet qui nous interpelle tous et toutes, la marche en solitaire.
Oui Denis, parce que marcher seul, ça peut avoir l'air banal en apparence, mais intérieurement, ça peut être tout sauf banal.
Et pourquoi?
Bien, parce qu'on se retrouve face à quelque chose qu'on évite souvent, le silence et soi-même. Alors, quand on marche seul, sans musique, sans téléphone, il n'y a pas de distraction. Et pour beaucoup de gens, ça peut mener à un certain inconfort.
Parce que le cerveau devient hyperactif.
Exactement. Et ce phénomène n'est pas que psychologique, là, c'est neurologique également. Quand on n'est pas occupé à une tâche précise, le cerveau enclenche ce qu'on appelle le mode par défaut, qui mène à la réflexion, la mémoire, l'introspection. Et marcher favorise justement cet état.
Donc, marcher seul favorise un état que je pourrais dire méditatif?
Oui, et même plus que ça. Une étude de l'Université Stanford a démontré que marcher augmente la créativité d'environ 60 % comparé à rester assis.
60 % c'est énorme.
Oui, en effet. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cet état peut être induit tant par la marche en pleine nature que sur un tapis roulant. Donc, en d'autres mots, ce n'est pas l'environnement qui importe, c'est le mouvement.
Qu'est-ce qui explique ce phénomène?
Plusieurs choses. Donc, il va y avoir une augmentation du flux sanguin vers le cerveau, une stimulation des connexions neuronales, qui sont les cellules du cerveau, les neurones, une activation des processus de pensée créative. Bref, la marche favorise ce qu'on appelle la pensée divergente. Et ça veut dire la capacité à générer des idées nouvelles.
Y a-t-il un effet semblable sur le plan émotionnel?
Oui. Donc, marcher seul agit comme une espèce de régulation naturelle du système nerveux. On en a parlé d'ailleurs dans les chroniques antérieures. La marche permet de réduire le cortisol, donc l'hormone du stress, augmenter la dopamine et la sérotonine, qui sont souvent perçues comme les hormones du bonheur, là. Et la marche va également améliorer l'humeur et diminuer l'anxiété.
C'est donc un antidépresseur naturel.
Dans certains cas, oui. Une méta-analyse récente démontre d'ailleurs que marcher régulièrement, autour de 7000 pas par jour, ça peut réduire le risque de dépression d'environ 31%.
Alors, comment marcher seul diffère-t-il de la marche avec quelqu'un?
Eh bien, quand tu es seul, tu ne peux pas fuir. Donc, quand on marche avec quelqu'un, on va parler, on écoute, on est tourné vers l'extérieur. Alors que quand on marche seul, on est inexorablement tourné vers l'intérieur. Et ça peut être très confrontant pour certaines personnes de faire face à la réalité actuelle de qui nous sommes ou de notre situation.
Mais aussi libérateur.
Exactement. Marcher seul, c'est un espace-temps où on choisit à notre rythme, on choisit la direction, on n'est pas soumis à des critères de performance. Et dans une société où tout est structuré, optimisé, ce sont des moments qui sont de plus en plus rares, mais très précieux.
Alors, on pourrait dire ne rien devoir à qui ou à quoi que ce soit.
Voilà. Et il y a quelque chose, personnellement, je trouve, là, de profondément libérateur dans tout ça. même qu'une courte marche, là, juste 12 minutes, ça peut améliorer l'énergie, la vigilance et le sentiment de bien-être.
Alors, Michel, poussons plus loin la réflexion. Est-ce que marcher seul peut nous aider à prendre des décisions? Et si oui, comment?
Absolument. Parce que marcher, ça va réduire l'intensité émotionnelle et ça augmente la clarté cognitive. Donc, beaucoup de gens rapportent que leurs meilleures idées ou leurs décisions émergent en marchant. Et la science confirme que ce n'est pas un hasard.
Alors, je résume. Au départ, on ressent un certain inconfort, puis s'installe la sensation de liberté.
Souvent, oui. Au début, c'est un peu dérangeant le silence. On a des pensées envahissantes. Généralement, c'est là où on a tendance à sortir le téléphone, peut-être écouter quelque chose, appeler un ami. Mais si on résiste à ça, puis on persiste à marcher en silence, nos pensées vont commencer à se structurer, nos émotions vont se déposer, le corps se calme et éventuellement, un sentiment de clarté, de contrôle, de liberté.
Alors concrètement, Michel, comment peut-on y arriver?
Très simplement. 10 à 20 minutes, sans téléphone, sans objectif de performance. Ça peut avoir l'air plus facile que de le mettre en application. Et surtout, accepter l'inconfort du début. Parce que cet inconfort, c'est souvent la porte d'entrée vers quelque chose de beaucoup plus profond.
Alors, marcher seul, inconfort ou liberté?
Les deux. Mais l'inconfort, c'est souvent simplement un passage obligé vers quelque chose de plus grand. Parce qu'en marchant seul, on ne fait pas que bouger son corps. On remet de l'ordre dans ses pensées.
Voilà.
On aide son système nerveux. On se reconnecte à soi. Et dans un monde où tout va vite, hein, où tout sollicite notre attention à tout moment, là, choisir de marcher seul quelques minutes, sans distraction, c'est un geste simple, mais profondément puissant. Alors, la prochaine fois que vous hésitez à marcher seul, rappelez-vous que derrière cet inconfort se cache peut-être exactement ce dont vous avez besoin d'explorer. Faites le test. Sortez. Marchez. Respirez. Votre esprit va s'éclaircir et votre corps vous en remerciera.
Et nous vous remercions, Michel, de cette belle chronique Le Corps en marche et votre invitation à marcher seul.
C'est mon plaisir, Denis.
À bientôt.
À bientôt.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier nos invités Océane Trudeau, David Gauthier et notre chroniqueuse Michèle Cousinat-Baudet. Merci également à Jérôme Costigan et Lysandre Duplé à la technique. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Je vous laisse cette semaine avec un proverbe corse. Ne juge pas ta vie avant son achèvement. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.